Il va rapidement y avoir un problème avec cette poupée, cet enfant, puisque les parents, ils entendent Eugène parler à Robert dans sa chambre. Mais ils entendent deux voix différentes, c'est ça qui est glauque. Alors, les enfants ont souvent des amis imaginaires, ou en tout cas, ils en créent. Donc, ils se disent que leur fils interprète tout simplement la voix de sa poupée Robert, ainsi que la sienne, et il converse à sa poupée, sauf qu'en fait, c'est lui qui fait les questions et les réponses.
Connaissez-vous les traits d'horreur de Squeezie? Des vidéos d'une quinzaine de minutes dans lesquelles le youtubeur raconte face caméra une histoire d'épouvante présentée comme une histoire vraie. On va en reparler. Carton phénoménal. Squeezie décline l'idée en bande dessinée, peut-être bientôt en court-métrage, pourquoi pas au cinéma. Pour vous donner une idée, le garçon cumule 17 millions d'abonnés, ou presque, sachant que beaucoup de gens regardent ses vidéos sans s'abonner. L'abonnement sur YouTube, c'est très important, c'est un signe fort d'adhésion. On en déduit que si Squeezie s'était présenté au premier tour de la dernière présidentielle, il aurait raflé 47% des 36 millions de votants et il serait président. Vous voulez un autre ordre de grandeur? 17 millions d'abonnés, et ben c'est équivalent à la population du Sénégal ou bien de la Grèce et du Liban réunis. Bref, quand on parle de Squeezie, on parle de sa surface et de sa puissance. Mieux vaut se demander en réalité ce qu'il en fait.
L'instant M. Sonia de Villers. Sur France Inter.
Aux alentours de 13h, Adam se jette sur Andrew et il lui met pas un coup de couteau, il lui en met des dizaines. Juste après ça, il court sur la route en face de leur appart, toujours l'arme du crime en main, et il appelle la police pour immédiatement leur dire ce qu'il vient de faire. Évidemment, la police a débarqué extrêmement rapidement sur les lieux et elle a arrêté Adam, et elle a aussi perquisitionné le domicile. Parmi les objets trouvés se trouve un cahier dans lequel Adam avait écrit qu'il comptait tuer tous les colocataires de l'appartement, y compris ses propres frères. Et y compris, évidemment,
bon, Aymeric. Si vous voulez savoir s'il les a tous zigouillés, vous vous rendez sur la chaîne YouTube de Squeezie. Bonjour Squeezie.
Bonjour.
Bon, soyez le bienvenu sur France Inter. Alors, nous, on va parler de cette bande dessinée. Cette bande dessinée qui s'appelle Blic. Trois histoires originales inspirées des vidéos traites d'horreur. On va expliquer ce qu'il y a là-dedans de vrai, de fantaisiste, de réalité, de fiction.
Avec plaisir.
Voilà, dans cette BD, il y a trois histoires illustrées par trois dessinateurs différents.
Absolument.
Alors, d'abord, les traits d'horreur pour ceux qui ne sont pas familiers de vos productions, puisque c'est une vraie transposition sur papier d'un phénomène qui est typiquement du web. Les traits d'horreur, vous allez chercher des histoires sur les forums.
Exactement. Mmh. Exactement. Il y a
sur Reddit.
Sur Reddit.
Qui est un forum américain.
Forum américain, numéro un forum mondial, où on peut trouver plein de thèmes différents. C'est pas que des trucs d'horreur, mais parmi ces thèmes se trouve justement de l'horreur. Il y a plein de gens qui racontent des trucs qu'ils ont vécu. Qui sont un peu durs, mais bon, moi je raconte ceux qui finissent bien évidemment. Et il y a aussi des gens d'ailleurs sur d'autres forums de Reddit qui s'appellent des subreddits qui créent des histoires originales. Et nous là dans Blic, c'est un peu ce qu'on a fait. On a créé nos propres histoires en s'inspirant du format des vidéos thread horreur, c'est-à-dire du fait qu'il y ait trois histoires. Voilà.
Dans une
vidéo, je raconte trois histoires.
C'est ça. Et sur Reddit, c'est vraiment des histoires vraies. Mes gamins sont persuadés que vous leur racontez des histoires vraies.
En fait,
alors qu'elles sont tellement tirées par les cheveux, cher ami.
Je sais et je t'assure qu'il y a les deux.
Ouais. Après,
peut-être que moi-même, je me fais entubé par des utilisateurs.
Oui, c'est ça. Alors, j'aimerais qu'on parle ensemble de cette culture web à travers le thread d'horreur, parce qu'on peut en raconter plein de choses. En réalité, il y a toujours cette frontière non délimitée entre la réalité et la fiction. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on va piocher des histoires qui circulent, qu'on se les approprie, qu'on les transforme à sa sauce. En fait, elles viennent pas de vous. Vous vous les appropriez, vous les détournez, vous en faites du Squeezie. Et ça, c'est très typique du web.
Ouais, c'est ça. Bah, je pense que les gens sur le web, c'est des humains, donc ils ont des passions, ils sont sensibles à certains sujets et ils aiment bien en discuter avec leur audience. Donc quand ils voient un truc passer qui les intéresse, qui les marque, bah ils vont le raconter à leur audience et donc ils vont se l'approprier, le raconter d'une certaine manière.
C'est ça, en musique on appelle ça du remix, du sample.
En musique ce serait ou de l'inspiration, tu vois, t'as toujours une référence quand tu fais une musique, t'as 2-3 refs et tu te bases sur comment ils ont construit leur musique pour faire la tienne.
Ouais.
Bah là c'est un petit peu pareil avec les histoires et les différents sujets quoi.
Parce qu'on vous a longtemps reproché par exemple d'aller aspirer les tendances des très gros youtubeurs américains type PewDiePie.
Mais à l'époque,
c'est fou à quel point en réalité ces tendances se mondialisent.
Ouais, et en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens du web qui ont à peu près le même âge, qui sont nés à peu près dans le même environnement et qui donc naturellement vont se tourner vers les mêmes choses sans même l'un avoir conscience de l'existence de l'autre. En fait, c'est juste logique, quoi. On a eu les mêmes inspirations, on est tous plus ou moins fans de jeux vidéo, d'animés, on aime le même contenu.
Ça veut dire qu'il y a des Squeezie dans d'autres pays ?
Bien sûr.
C'est vrai ?
Ouais, je pense qu'il y a un équivalent de tous les YouTubers dans tous les pays du monde.
Il y a des Cyprien dans d'autres pays, ouais, des McFly et Carlito dans d'autres pays.
Ouais, il y a un Cyprien espagnol très connu d'ailleurs, et qui a même copié quelques fois Cyprien.
C'est ça.
Ouais, on a repéré des trucs.
C'est ça. Non mais c'est ça, c'est vraiment la génération spontanée du web qui arrive avec son cortège de références, et en réalité vous êtes vous êtes de la génération où la pop culture circulait déjà dans le monde entier. Donc vous avez vu les mêmes films, regardé les mêmes programmes télé adaptés partout et surtout jouer aux mêmes jeux vidéo. Parlons un petit peu d'horreur.
Ah, ça me plaît. Là, ça me plaît.
Ouais, c'est ça. Parlons un petit peu d'horreur. Bleak, on l'a dit, c'est 3 histoires originales illustrées par 3 illustrateurs différents. On voit bien que vous vous adressez à chaque fois à des cibles assez différentes. Moi, par exemple, je préfère la première histoire. La première histoire, elle est plutôt dessinée pour les beaucoup plus jeunes, pour les petits.
Et la deuxième pour en fait on savait qu'il allait avoir plein de gens de différentes tranches d'âge qui allaient se procurer la BD. Et donc du coup, on s'est dit on va en faire pour tout le monde. On va faire une histoire dessin jeune, une histoire dessin un peu plus adulte et une histoire entre deux. Comme ça, on sait qu'on vise juste, quoi.
Et alors, qu'est-ce que vous aimez dans l'horreur ?
Je sais pas. Les fameuses mécaniques, ça me fascine, moi, en fait, de voir quelles mécaniques les auteurs utilisent pour te faire peur, en fait. Parce que ça reste de la fiction, là, ça reste du dessin. C'est quand même vachement marrant d'avoir peur devant des dessins. Ça veut dire que tu fais des projections, toi, de si ça t'arrive. Et qu'est-ce qui fait que tu vas te projeter à ce point et avoir peur? Et qu'est-ce qui fait qu'au contraire, ça va rebondir sur toi parfois?
Et il y a plein de sous-genres dans l'horreur.
Absolument.
Il y a les final girls, ces filles qui sont maltraitées pendant, et qui ont peur, pendant, et puis qui s'en sortent à la fin, c'est l'héroïne. Il y a les found footage, qui sont ces films recomposés avec de la reconstitution d'images vidéo. Il y a les films de zombies, il y a les slashers.
Exactement.
Et alors vous, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous regardez?
Moi, j'aime bien quand ça touche au réel, quand c'est quelque chose qui est possible dans la vraie vie, si on a vraiment, vraiment, vraiment pas de chance. C'est un petit peu ce que j'aime le plus maintenant. Mais j'ai aussi eu, il y a beaucoup de gens qui sont très fans du paranormal, n'est-ce pas, des démons, des esprits. Et c'est un truc qui m'a beaucoup touché aussi pendant longtemps. Et maintenant, je suis un peu plus pragmatique, je crois, qu'avant.
Et l'horreur dans le jeu vidéo?
Incroyable, c'est un vrai. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux d'horreur qui existent. D'ailleurs, les premiers jeux indépendants à l'époque, donc qui sortaient pas de gros studios comme, je sais pas, les gens doivent connaître peut-être Electronic Arts qui sont derrière FIFA, Activision qui sont derrière Call of Duty. Il y a aussi à l'époque plein de tout petits gars qui ont décidé de faire leurs jeux. Donc c'était des jeux indés et parmi ces gars, énormément d'entre eux faisaient des jeux d'horreur, donc qui étaient pas très incroyables visuellement, mais qui faisaient quand même bien peur. Et surtout que c'était nouveau à l'époque, des jeux d'horreur comme ça dans tous les sens.
On va parler de cette puissance et des chiffres qui comptent tellement sur le web et sur YouTube. Mr Beast, par exemple, qui est un très très gros YouTuber américain, c'est 92 ou 93 millions d'abonnés. Alors il fait des espèces de super productions avec des très gros moyens. Ce qui est intéressant, c'est que, écoutez, il a lancé une chaîne avec ses vidéos traduites en français. Alors le résultat est pas top, mais bon, voilà, ça donne ça.
Ça fait un peu MTV.
Jake Pollers, levez votre main droite. Posez cette main droite sur la voiture.
La main gauche, ça passe ?
Ouais, si tu veux. La règle est simple. Le dernier parmi vous qui enlève sa main droite ou sa main gauche de la voiture peut la garder.
Cette voiture ?
Non, ce sera une autre Lamborghini, mais ce sera une Lamborghini quand même.
Joli.
Ok.
Bon, okay, c'est donc, très moche, mais ça permet à un Américain de partir à l'assaut de la francophonie, c'est-à-dire la France et toute l'Afrique. Vous vous êtes imaginé vous faire traduire en anglais, en espagnol, en arabe, chinois ?
En vrai, on m'a beaucoup posé la question. Et moi, dans mon cas, je crois pas, en fait. Je crois que ça me va très bien d'être suivi par... Déjà, j'ai de la chance d'être suivi par autant de Français. Je crois que j'ai pas envie de viser d'autres communautés ailleurs dans le monde. J'ai un peu la flemme.
C'est vrai ?
Ouais, je trouve ça très cool, là, de parler aux Français et que ça marche. J'ai pas envie d'essayer de m'internationaliser. Un peu la flemme, ouais.
Un peu la flemme. Et la puissance engendre la puissance. C'est-à-dire qu'on vous imagine, vous, dans votre progression de YouTubeur, passer de 0 à 17 millions. Mais de 0 à 0, pas de 0 millions, de 0 à 17 millions, vraiment, vous êtes parti from scratch, c'est ce qu'on dit dans le métier. Et que, à quel point les premiers millions ont été douloureux à aller chercher, comme il a fallu s'arracher la peau. Et comme ensuite, l'algorithme pousse forcément les plus puissants d'entre vous.
Après, alors ça dépend, l'algorithme a énormément changé entre temps et au contraire je trouve qu'aujourd'hui il a jamais autant laissé sa chance à plein de gens qui débutent, en fait. Alors évidemment on a un avantage quand même certain, de surtout quand tu mets en ligne régulièrement et que régulièrement il y a un minimum de gens qui cliquent sur ce que tu mets en ligne. Mais oui, ça a été très, très, très progressif pour revenir à ce que tu disais. C'est comme tu dis, les gens s'imaginent souvent qu'il y a eu un matin, on s'est levé et que d'un coup tout marche et on en vit. D'un coup, on se dit, oh, c'est bon, c'est aujourd'hui que je quitte mon taf.
Mais l'algorithme a beaucoup changé. Ça signifie que vous tous, vous avez été très dépendants des algorithmes de YouTube.
Ouais, on l'est toujours. Ouais. Pas que de YouTube d'ailleurs, de tous les réseaux sociaux. On est complètement dépendants des algorithmes. Mais en même temps, ils reflètent aujourd'hui vraiment ce sur quoi les gens cliquent ou pas, quoi. Il a jamais été aussi précis, en fait, l'algorithme. C'est-à-dire, quand tu mets une vidéo en ligne et qu'elle plaît à un peu moins de personnes que celle d'avant, l'algorithme le saisit tout de suite et la met immédiatement moins en avant auprès de nouvelles personnes potentielles. Et donc, tu fais moins de vues, etc. Et donc, ça fout un stress. Moi, dans mon cas...
est moins stressé à 17 millions. Hein.
Bah, ça va. Non, mais mes chiffres restent carrément bien et j'en vis très bien depuis très longtemps. Mais je pense surtout aux créateurs qui sont moins gros et qui peut-être débutent, qui sont un peu encore dans le doute sur est-ce qu'ils en font leur activité principale ou pas. Et ce nouvel algo, il met des écarts de vues incroyables d'une vidéo à l'autre et donc de revenus aussi. Et donc, je pense que ça peut mettre un bon gros stress aux petits créateurs, en fait.
Alors, dans le genre vidéo événement, vous avez osé l'impensable. Vous avez chanté en roumain.
C'est vrai.
Bon alors donc je vous dis tout, ma mère est roumaine, elle ne m'a jamais parlé roumain et elle a failli s'étrangler de rire, elle pleurait de rire en entendant ça. Donc c'est une sorte de roumain de cuisine.
Ah hein, totalement.
Totalement, vous assumez.
C'est quand même, on a quand même pris une prof de roumain pour le faire, mais bon, elle nous a épargné les spécificités de la langue, je crois.
On a pris une prof de roumain.
Non, on a vraiment pris une prof.
J'imagine le tournage avec la prof de roumain.
Oh, ça la faisait marrer. Ça a
quand même fait un disque de platine, ça a quand même fait 42 millions de vues le clip. L'idée, c'était un challenge. L'idée, c'était à qui ferait le meilleur CD des années 2000.
Ouais.
Voilà, du coup, vous avez fait un CD, un vrai CD physique.
Un vrai single, ouais, deux titres. Avec l'instru et le son, comme à l'époque.
Vendu chez Lidl.
Ouais, comme ça, accessible pour tout le monde.
Bon, ça a été pris comment en Roumanie? Qu'est-ce qu'il a dit, le Squeezie roumain?
Eh ben, on parlait de Reddit. Sur Reddit, les Roumains en ont parlé. Au début, ils kiffaient. Ils étaient là, haha, regardez, ces Français ont fait un truc marrant en parlant notre langue. Et en fait, il y a tellement de Français qui sont allés leur dire, regardez, il y a des Français qui ont fait un truc dans votre langue, qu'à la fin, ils en avaient marre, les Roumains. Ils étaient en mode, lâchez-nous avec ce son. On a compris, c'est bon, stop.
Mais justement, on en parlait de cette logique de vidéo événement. C'est-à-dire que Mister V est venu là il y a 15 jours. Lui, il poste très très peu. On a reçu d'autres youtubeurs qui postent tous les jours, qui racontent d'ailleurs, qui l'ont raconté à ce micro, leur quasi burn-out à un moment d'être exposé tous les jours, H24. Vous êtes dans une sorte d'entre-deux. Vous avez un rythme très routinier, c'est-à-dire vous postez toutes les semaines, etc. Mais on sent qu'il y a un moment, il faut créer l'événement.
C'est pas vraiment calculé, c'est aussi des envies créatives de faire des trucs un peu plus poussés que de raconter des histoires. Et forcément, c'est des trucs qui prennent un peu plus de temps à se mettre en place. Il y a une boîte de production derrière, qui est la mienne. Il y a parfois plusieurs dizaines de personnes qui bossent sur certains concepts, certaines vidéos. Donc forcément, il n'y en a pas une par semaine, une comme ça. Mais par contre, j'aime bien, de temps en temps...
Ce que vous ferez avec les courts-métrages d'horreur ?
Bah oui, typiquement le court-métrage d'horreur. D'ailleurs, on a dû le repousser, etc. Parce que c'est une prod qui prend beaucoup de temps. C'est très long,
et
c'est
cinéma.
Beaucoup de gens. Et... Le cinéma ?
Ouais.
Ah ben j'adore en tant que consommateur pour le moment. J'adore.
Alors je l'ai dit, il y a ce qu'on fait de sa puissance. Alors vous, ce qui vous caractérise, notamment sur Twitch, je raconte à tout le monde, Twitch c'est du live, c'est du direct.
Absolument.
Là où YouTube, vous postez des vidéos qui sont stockées et qu'on peut regarder quand on veut. Twitch c'est du direct. Sur Twitch, vous avez toujours eu une attitude extrêmement responsable en disant, on peut pas faire n'importe quoi, le web a une culture du défouloir, et alors ? Et alors, donc je vous fais écouter Ultia, c'est une streameuse. Elle participait à The Event, qui est une sorte de gros marathon caritatif qui lève des fonds pour des ONG, qui met ensemble tout un tas de stars du streaming et du jeu vidéo. Et écoutez ce qu'elle racontait.
T'amènes un mec. Vas-y. Qu'est-ce que je dis ? T'amènes un Tunisien et tu le mets à côté de moi. Et puis je commence à lui faire plein de blagues racistes et je commence à pas le respecter. Et j'ai mon chat qui est en train de dire ah ouais regarde ben va manger du couscous machin. Et mon pote à côté, vu que c'est mon pote, dit ah non mais moi je m'en fous, c'est ma pote, elle peut dire ce qu'elle veut. Donc ça y a pas de problème. Ça c'est bon. On peut, c'est bon. Ben c'est pareil, sauf que c'est de la misogynie en fait.
Elle a obtenu des excuses du streamer qu'elle avait pointé, qu'elle avait trouvé vraiment hyper gras, hyper misogyne, hyper vulgaire. Mais alors elle en a pris plein la figure.
Ouais, c'était un événement malheureux. Au final, ça finit bien dans le sens où...
Non, en même temps, ça met les points sur les i, ça dit les
choses.
Ouais,
ouais, et puis surtout, en fait, la personne en face en question est un assez jeune créateur et qui a explosé assez vite et qui donc a peut-être pas aussi bien que d'autres intégré la notion de responsabilité quand tu touches beaucoup de gens et qui se permettait des blagues ou des trucs qu'il faisait quand il était moins connu. Et donc là, il était devant extrêmement beaucoup de viewers, donc tu dois être extrêmement responsable en retour. Mm. C'est le revers de médaille. C'est normal. Et donc Ultia, oui, effectivement, lui a dit bon bah voilà, il y a des blagues, il y a des trucs qui se disent pas, stop. Et lui s'est tout de suite excusé, il a pas refait de bêtises depuis et ça finit bien. Donc il y a aussi un taf d'éducation envers les influenceurs où il y en a qui comprennent pas qu'il faut être assez responsable parce qu'on touche beaucoup de gens.
Alors qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Racontez ce qui s'est passé cette nuit.
Incroyable, il y a eu sur Reddit, il y a eu un truc qui avait eu lieu en 2017 qui s'appelle la Pixel Wars. Pour la faire simple, c'est une fresque géante et chaque utilisateur connecté à Reddit a le droit de mettre un pixel sur cette fresque toutes les 2 minutes. Voilà. Et donc...
Vous y avez participé ?
En tant que spectateur, ouais. J'ai pas créé de contenu autour, mais j'ai suivi Kameto d'ailleurs. Ouais. Big up à Kameto, gros streamer de Twitch qui dirigeait les armées, la communauté française. Et donc en fait, du coup, t'as eu la communauté de chaque pays qui suivait de gros streamers de son pays et qui essayait de dessiner des trucs sur la fresque. Donc au début, ça commence par des drapeaux de chaque pays. Et puis à la fin, ça dessine des mimes d'Internet. Ça devient de l'art en fait. Le but, c'est vraiment de faire une fresque, de faire une œuvre d'art en fait.
Sauf que l'art s'est transformé en guerre.
En guerre des communautés.
En guerre les Français contre les Espagnols, notamment, chacun essayant de faire triompher son drapeau à coup de pixels.
Absolument, et la France a brillé. La communauté, il y avait plus de 300 000 Français qui étaient sur les lives Twitch hier, ce qui est beaucoup parce qu'on est quand même, faut le savoir, pas un si gros pays. La communauté francophone, pardon, est pas si grande à l'échelle planétaire par rapport à la communauté anglophone ou hispanique. Et en fait, on s'en est très très bien sorti à tel point que les autres pays pensaient qu'on utilisait des bots, c'est-à-dire des robots. Non, c'est juste qu'on est sur le web, faut le savoir, la communauté la plus engagée au monde. Et donc en fait, les étrangers à chaque fois sont choqués de ça. Et donc il y avait.
C'est super intéressant.
Ouais. Et sur la fresque, du coup, il y a un très grand.
C'est une particularité française, c'est-à-dire qu'on peut mobiliser des communautés.
En France, les gens sont très 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 engagés sur Internet. Il y a vraiment beaucoup de Français qui suivent des créateurs du web, que ce soit YouTube ou Twitch, à tel point que sur certaines vidéos. On peut avoir des stats qui sont celles de vidéos hispaniques qui touchent, il y a des centaines de millions de personnes qui parlent.
Évidemment, puisqu'il y a toute l'Amérique du Sud, etc. Bref, les Français ont triomphé. Ils se sont pris le baiser du tueur. Oui. Ils se sont pris les félicitations de qui, Squeezie ? D'Éric Zemmour.
Du Z.
Du Z, voilà.
Ouais. Qui a fait une petite appropriation de ce délire-là.
Voilà,
absolument.
Qui a tweeté ce matin abondamment pour féliciter les streamers français. Comme si c'était une bataille nationaliste.
Il cite son mouvement et tout dans son tweet. Enfin, tu vois que c'est un truc politisé. C'est pas juste bien joué, c'est un truc politisé. Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Il y a souvent, sur des gros événements du web qui rallient beaucoup de gens, il y a souvent des hommes politiques qui arrivent et qui essaient d'avoir de la lumière.
De faire de la récup.
Et de toucher les jeunes, en fait. Via, en soutenant faussement parfois même les événements en question.
C'est ça. Voilà. Et là, il y a une vraie conscience. Parmi les streamers, parmi les utilisateurs de Twitch
Ça dépend qui, encore une fois. On n'est pas tous à égalité sur ça. On essaie tous d'évoluer, de se responsabiliser, mais c'est des processus qui ça prend du temps, en fait, de s'éduquer à ces sujets. Et souvent même, on se fait éduquer par notre propre communauté, en fait, et pas forcément par d'autres streamers.
C'est ça,
donc
parce
ça prend
que cette
du
nuit,
temps.
Il y en a qui se sont dit, mais c'est génial d'être félicité par un homme
oui,
politique,
mais en fait,
sans vraiment réfléchir à ce que
ça
signifie.
En fait, mais c'est normal, c'est juste que le web, on a été tellement dans notre coin pendant longtemps. Aujourd'hui, c'est une culture qui est devenue très grand public, que beaucoup de gens connaissent et reconnaissent et dont les gens entendent parler en fait. Mais il y en a qui pensent encore que c'est un petit truc de niche. Donc, quand quelqu'un qu'on voit à la télé, etc., cite un truc en cours du web, ils disent oh, regardez, c'est incroyable, monsieur Intel. Ouais, voilà, c'est pas méchant.
Non, c'est pas méchant.
C'est un peu naïf.
Merci beaucoup, Squeezie, d'avoir été l'invité de l'Instant M.
J'ai passé Blic, un bon
moment. Volume 1, il y aura donc un volume 2.
Et un volume 3.
Et un volume 3, ça fera re-Squeezie dans l'Instant M et re-Squeezie dans l'Instant M. Ensuite, du court-métrage et peut-être un jour du cinéma, pourquoi pas. C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Rebbi.
Bonjour Sonia De Villers. Ce matin, une émission consacrée au cancer du poumon qui touche de plus en plus de femmes et de non-fumeurs. N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 et à nous laisser une note vocale
sur l'appli France Inter. C'est ce qu'on appelle les fumeurs passifs ?
Il y a le tabagisme passif, mais il y a aussi d'autres raisons qui expliquent pourquoi de plus en plus de non-fumeurs sont touchés par ce cancer qui reste le plus mortel en France.
Eh ben, on vous écoute attentivement. Bonne émission.